Le grand jury RTL, Le Figaro LCI, invité, le président du Modem, François Bayrou. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, nous sommes heureux de vous accueillir dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du Grand Jury. Vous en êtes l'invité, François Bayrou, bonsoir.
Bonjour.
Nous allons évoquer tous les problèmes que nous soumet l'actualité en compagnie de Pierre-Luc Sérillon d'LCI et Étienne Moujotte du Figaro. Et avant d'entrer de plein pied dans la politique elle-même, faisons ce détour par ce qui s'est passé hier à l'Élysée, en mariage, c'est rare, à l'Élysée bien sûr. Nicolas Sarkozy, président de la République, a épousé Carla Bruni, chanteuse et top modèle. Alors, dans de telles circonstances, généralement, on présente des vœux aux nouveaux époux. Le faites-vous, François Bayrou? Pourquoi pas?
Tous les vœux possibles, bien entendu, pour tout le monde sur la Terre, et que tout le monde soit heureux et que tout le monde se porte bien.
Mais c'est pas tout parfait. Le monde, là. Là, c'est un couple particulier, évidemment.
Franchement, il y aurait trop à dire.
Bien, dites-le.
Et je n'ai pas envie d'entrer dans cette discussion-là. Il y a deux sujets distincts. Le premier sur lequel je n'ai à avoir aucune opinion, c'est la vie... personnelle, affective, de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni. C'est leur affaire et ça ne regarde personne. Deuxième, c'est ce que cela entraîne et signifie pour la fonction présidentielle, l'utilisation de cette vie privée depuis des semaines, l'étalage de cette vie privée la vie publique. Et là, j'ai une opinion dont vous imaginez qu'elle est, après tout ce que j'ai dit pendant la campagne présidentielle, pour le moins réservée.
C'est-à-dire, vous pensez que cet étalage de la vie privée, comme vous l'avez dit, nuit à... l'image que les Français se font de la fonction, dégrade de la fonction, qu'est-ce que vous voulez dire?
Je pense que le président de la République n'est pas seulement un homme privé. Je pense que le président de la République, il porte, devant le pays et au nom du pays, autre chose que sa vie privée. Quelle que soit ses passions, ses habitudes de vie, il porte quelque chose d'autre qui est une part de l'image du pays. Et de ce point de vue-là, naturellement, on pourrait, si on avait le temps et si on n'était pas dans ce genre de situation, faire des commentaires nombreux.
Vous croyez que dans le monde d'aujourd'hui, avec la pression des médias, il est possible d'isoler sa vie privée quand on est un homme public?
Monsieur Moujotte, la pression des médias, elle est d'autant plus importante qu'elle est organisée. Il y a très longtemps que je ne crois plus que les photographes se trouvent par hasard quelque part. Il y a très longtemps que je ne crois plus que les caméras se trouvent par hasard où se produit un événement. Vous et moi, et tous ceux qui sont autour de cette table, en savent assez sur l'organisation des médias pour être absolument certains que ni les photographes ni les caméras ne sont là par hasard.
Si l'on se tourne vers l'avenir maintenant, comment est-ce que vous concevez, vous, le rôle de l'épouse du chef de l'État? Elle n'a pas de statut dans notre Constitution. Après tout, vous étiez candidat. Oui. Vous avez dû imaginer qu'aurait pu être le rôle d'Élisabeth Bayrou si vous aviez été à l'Élysée. Comment vous le voyez, ce rôle?
Eh bien, pour moi, il n'y a pas de statut de l'épouse du président de la République. Le président de la République est élu, et lui seul est élu. Que par ailleurs il ait une vie de famille, que cette vie de famille soit suffisamment transparente pour que les gens savent avec qui, les électeurs sachent avec qui vous vivez et de quelle manière vous... quelle a été l'histoire de votre vie, tout ça me paraît absolument normal. Sans étalage et sans utilisation. Je déteste l'étalage et l'utilisation de la vie privée. Je trouve que ça a une fonction absolument précise, qui est de détourner l'attention des citoyens, l'attention de l'opinion, de l'essentiel, pour la porter vers l'accessoire. Il y a très longtemps que la vie politique américaine est organisée comme ça, d'ailleurs sur des faux-semblants. Vous me permettrez de rappeler, de ne pas rappeler un certain nombre d'histoires que nous avons connues sur la vie politique américaine. Je trouve que c'est... ça ne pousse pas au civisme, cet étalage de vie privée. Voilà.
Alors, une précision tout de même sur la question de Pierre-Luc Séguillon. Carla Bruni, une carrière artistique qu'elle menait avant d'épouser le chef de l'État, peut-elle, puisqu'elle est maintenant épouse du chef de l'État, poursuivre, à votre avis, sa carrière artistique?
Mais bien sûr que Carla Bruni écrive des poèmes, qu'elle chante des chansons. Moi, je j'ai absolument rien à dire à tout ça.
Vous aimez ses chansons?
Oui, je les trouve sympathiques.
Vous dites que l'utilisation de la vie privée peut avoir pour objet de détourner les Français de leurs préoccupations,
de l'essentiel.
Si on en croit les sondages, ça n'est pas tout à fait le cas. De même, par exemple, mais celui-là ne fera que confirmer ceux qui sont sortis ces derniers jours, une étude LH2, qui sera publiée dans Libération, indique que la cote de confiance du chef de l'État chute de 13 points. Et elle est mesurée aujourd'hui à 41% d'opinion positive. Donc, s'il y a une volonté d'utilisation de la vie privée, pour le moins, le but n'est pas atteint.
Mais il peut arriver qu'on se trompe. Hein. Quand on a des stratégies de cet ordre, il peut arriver qu'on se trompe. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Contrairement à ce qu'on croit, à ce qu'Étienne Moujotte tout à l'heure évoquait, qui était de l'ordre de « mais les Français ont changé, pour eux tout ça est tout à fait...
» Il n'a pas dit ça, non, là, bah, vous, là vous interprétez.
Il était entré, dans ce genre
non, je disais l'impression des médias.
D'interprétation,
pas...
voilà. Pour moi, le peuple français a un certain nombre de... Comment dirais-je? Un certain nombre de piliers pour la maison dans laquelle il vit. Un de ces piliers, c'est la fonction présidentielle. Qu'est-ce qu'il attend du président de la République? Des choses assez simples. Il attend qu'il lui montre la direction. Il attend qu'il lui dise la vérité. Il attend qu'il le respecte. Et il attend qu'il incarne un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs d'un... comment dirais-je? Que chacun d'entre nous essaie de transmettre à ses enfants. Des choses aussi simples que celles-là. Et pour moi, c'est à cela, je crois, que le peuple français juge le président de la République, son rapport avec l'argent, son rapport avec les milliardaires, la soumission à un certain nombre de puissances, qui pour moi ne correspondent en rien à l'idée qu'il se faisait de la fonction présidentielle. Et je veux vous rappeler que c'est sur ces sujets-là que j'ai pris la décision difficile et lourde d'annoncer que je ne voterai pas pour Nicolas Sarkozy, avec les conséquences non négligeables que vous savez.
Mais quand vous analysez et que vous essayez de décrypter la baisse de popularité du chef de l'État, est-ce que vous l'attribuez au phénomène que vous venez d'évoquer ou au décalage qui peut exister et qui est assez logique, semble-t-il, entre le fait de mettre en œuvre des réformes et le moment plus tardif où elles auront leurs effets ?
La baisse de la confiance en Nicolas Sarkozy, elle a pour moi deux racines assez claires et qui toutes les deux étaient parfaitement lisibles dans la campagne présidentielle. Première racine, Nicolas Sarkozy a fait pendant la campagne présidentielle des promesses strictement intenables. Strictement intenable. Et je prends le pari qu'on se retrouvera dans un an ici, vous verrez qu'aucune de ces promesses ne sera respectée. Deuxièmement, il a pris au début de son mandat des décisions qui vont directement à l'encontre du redressement nécessaire du pays.
Qui était annoncé pendant la campagne, pour le coup. Hein. Le bouclier fiscal, tout ce à quoi vous pensez,
non,
tout ça était annoncé pendant la campagne.
Absolument pas.
Le bouclier fiscal l'était, par exemple.
Je me souviens assez bien de la campagne présidentielle. On allait remettre les comptes du pays à l'équilibre. On irait même à l'équilibre. On serait à l'équilibre en 2012. Vous vous souvenez de ça, hein? Il y aurait plus de déficit en 2012.
Mais c'est encore le propos du chef de l'État.
En 2008.
Vous voulez rire?
Non, mais on est en 2008.
Disons la vérité aux Français, il n'y a pas l'ombre du commencement d'une chance qu'on soit à l'équilibre en 2012. Alors arrêtons de raconter des histoires. Donc ça c'est le premier élément qui explique cette baisse. Et le deuxième élément, c'est que c'est révélé aux yeux des Français qui avait été c'est révélé aux yeux des Français un personnage qui avait été jusqu'alors dissimulé par les citations de Jaurès, de Blum, de De Gaulle, de tout ce que la République, de Jules Ferry, de tout ce que la République comporte de piliers et de protecteurs. et qui était exactement le contraire de la République. Quand vous vous mettez, et ça a évidemment commencé avec la nuit du Fouquet's, quand vous vous mettez en situation de vous faire l'inconditionnel d'un certain nombre de puissances financières en particulier, eh bien vous n'êtes plus aux yeux des Français le président de la République. Il a fallu quelques mois pour que ça s'incarne, mais c'est ça la vérité.
Revenons au premier point, 30 secondes. Êtes-vous pour ou contre la défiscalisation des heures supplémentaires, le paiement des RTT et le déblocage de la participation?
Je suis pour et je l'avais proposé dans ma campagne électorale. Mais ça n'est pas sur ce point-là que les Français contredisent Nicolas Sarkozy. C'est tout le reste. Je suis pour, j'aurais fait autre chose, j'aurais pris une autre stratégie. J'avais, vous le savez, dit que il fallait deux emplois sans charge dans les entreprises, que toute entreprise pourrait trouver deux emplois nouveaux sans charge. C'était une autre manière d'aller vers le pouvoir d'achat. Mais ça n'est pas sur ce point que se situe la contestation des Français. La contestation des Français, elle se situe beaucoup plus profondément sur leurs yeux qui s'ouvrent. La révélation de ce qu'on leur a raconté des histoires et que, de surcroît, les choix de valeur du président de la République ne correspondent pas à ce qu'il croit de la République.
Mais est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur les promesses qui n'ont pas été tenues? Vous avez parlé des équilibres budgétaires. En matière de pouvoir d'achat, par exemple, le président de la République avait dit « je serai le président du pouvoir d'achat ». Il a pris un certain nombre de dispositions. La loi TEPA, plus une loi sur le pouvoir d'achat qui n'est pas encore votée. Est-ce que vous contestez les efforts qui sont faits?
Nicolas Sarkozy a fait toute la campagne électorale en laissant croire, ou en faisant croire, en cherchant à faire croire aux Français qu'il suffisait qu'il fût élu pour que leurs problèmes s'arrangent. Et que notamment, tout ce qui était de l'ordre de l'effort, tout ça c'était d'un autre temps, que c'était plus d'actualité, que c'était du temps de ceux qui étaient plutôt des retardataires. Tout ce qui était de l'ordre de l'effort, on l'a éludé et on se trouve aujourd'hui devant une situation dont je crains qu'elle soit pour de longues années très difficile à rattraper pour la France.
Si vous étiez président de la République, quelles seraient les mesures immédiatement que vous prendriez pour le pouvoir d'achat?
Ça, il faudrait que vous ayez une machine à remonter le temps.
Non, mais aujourd'hui.
Parce que c'est au début qu'on a gaspillé, et en particulier pour un certain nombre d'intérêts, j'ai failli dire de classe, en tout cas d'intérêts de clientèle électorale. On a gaspillé les très petites marges de manœuvre que la France avait. Vous vous souvenez ce que j'avais dit? Je concentrerai le peu d'argent que nous avons sur deux sujets. Premier sujet, les emplois sans charge. Parce que là, c'était un moyen de relancer tout d'un coup, pour beaucoup, beaucoup de Français, on y viendra dans un instant, l'angoisse qui est la leur de ne pas trouver leur place dans l'économie du pays. Et deuxièmement, les petites retraites, dont personne ne parle et dont je vous assure qu'elles souffrent épouvantablement aujourd'hui, parce que quand vous avez quelques centaines d'euros seulement de retraite par mois et que la vie augmente, notamment pour ce qui est fondamental, alors vous êtes tout à fait laissé sur le bord de la route.
Et prenons l'exemple des retraites que vous venez d'évoquer, des petites retraites. Nicolas Sarkozy avait dit « je revaloriserai le minimum
de
vieillesse » et de 25%.
30.
Et,
les documents qu'on vous a montrés l'autre jour, c'était plutôt 25.
Peu importe. Enfin, il augmenterait les...
On a 5% de différence.
On augmenterait le minimum vieillesse, on augmenterait les retraites et on financerait cela par la réforme des régimes spéciaux. Apparemment, ce n'est pas possible parce que la réforme des régimes spéciaux
va coûter plus cher
de l'argent
que s'il
n'y
avait pas eu de réforme.
Alors, vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous financeriez l'augmentation du minimum vieillesse?
Vous ne pouvez pas me demander ça. Je vous ai dit que c'était une affaire de stratégie depuis le premier jour.
Mais j'entends bien, mais on refait pas l'histoire.
Eh bien, lorsqu'il s'agira de refaire l'histoire, faudra avoir un autre débat, un nouveau débat dans le pays. Parce qu'il y a de l'irréversible en histoire. Et en politique aussi. Les choix qui ont été faits sont des choix qui seront très difficiles à rattraper. On avait très peu de marge de manœuvre. Très peu. Selon moi, quelques milliards seulement. Il fallait les placer à bon escient. dans les secteurs qui étaient des secteurs clés pour l'avenir du pays. Nicolas Sarkozy a voulu faire plaisir à une partie de sa clientèle électorale. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Finances allemand qui l'a dit en réunion à Bruxelles aussi clairement que je vous le dis.
Sa clientèle électorale, enfin, on n'est pas l'avocat de Nicolas Sarkozy ici, mais à part le bouclier fiscal, c'est à lui que vous pensez, j'imagine. Il n'y a pas eu d'autres mesures
et le bouclier fiscal, d'après selon l'aveu de Nicolas Sarkozy, 14 milliards.
Oui, mais il y avait les gérations
dans la TEPA, c'est la même chose.
La TEPA, et puis c'est 14 milliards en année pleine, ce qui n'est pas le cas de l'année 2007. Enfin, si on a un peu de rigueur dans la discussion, ce qui est sans doute nécessaire dans notre échange, ce qui est réservé, comme vous le dites, aux amis de Nicolas Sarkozy, vous pensez au bouclier fiscal, c'est ça que vous pensez?
Entre autres.
Ou autre chose?
Autre,
il y a que ça. Autre.
Oui, oui.
Il y a que ça.
Autre.
Et Bercy dit même que peu de contribuables demandent le remboursement des impôts versés et préfèrent rester discrets. Donc, c'est sans doute pas ça qui explique les difficultés financières du pays, la difficulté à satisfaire
on les revendications en termes de pouvoir d'achat. On n'a pas mis le pays sur les rails qui étaient nécessaires au moment où c'était envisageable et possible. À ce moment-là, on a fait exactement le contraire. Et on va découvrir, me semble-t-il, enfin on découvre tous les jours, me semble-t-il, que c'était de l'ordre des promesses illusoires.
Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la priorité? C'est la rigueur financière pour arriver à équilibrer une situation budgétaire qui ne l'est pas, et ceci est nécessaire vis-à-vis de nos partenaires européens, ou bien la satisfaction de la revendication qui est forte dans la population à propos du pouvoir d'achat doit être honorée.
Mais
quelle est la priorité aujourd'hui?
Comment voulez-vous satisfaire à la revendication forte des citoyens en matière de pouvoir d'achat, autrement que par un certain nombre de mesures utiles, parce que je trouve utile qu'on fasse de l'intéressement, je voudrais qu'on en fasse davantage, je trouve utile qu'on débloque la participation, peut-être à quelques entreprises ça présentera des difficultés, tout ça c'est utile, mais l'idée que l'État pourrait par un coup de baguette magique distribuer des milliards de pouvoir d'achat, évidemment c'est impossible, et la faute est d'avoir laissé croire que ça le serait.
Mais
faute est d'avoir laissé croire qu'on pourrait le faire.
Il n'empêche, aujourd'hui, le gouvernement va être confronté à un certain nombre d'arbitrages, de choix. J'aimerais savoir les choix que vous feriez aujourd'hui.
Sur le long terme. Alors là, on parle de l'orientation de la politique
d'abord,
de la France sur le long terme.
Un petit peu sur le court terme.
C'est-à-dire, quelle est votre question?
Première question, est-ce qu'il faut revaloriser le SMIC?
Personne ne le revalorisera d'un coup de baguette magique comme ça serait espéré par les Français. Parce que tout le monde sait que ça entraînerait aujourd'hui une cascade de chômage supplémentaire. Donc ça ne se fera pas.
Deuxième question, l'État va être confronté à la rétribution des fonctionnaires. Est-ce qu'il faut augmenter largement les fonctionnaires? Autrement dit,
largement, non, il faut qu'au moins on ait l'assurance que leur pouvoir d'achat ne s'effondre pas par rapport au coût de la vie. Et j'imagine que ça se fera, mais ça coûtera déjà très cher.
Et autre question, pardonnez-moi, simplement.
La dernière,
oui.
D'accord.
L'État va devoir probablement choisir, parce qu'il y a des problèmes des comptes sociaux, notamment, de les financer. Est-ce qu'il faut augmenter la CSG? Est-ce qu'il faut transférer les charges sur la TVA, voire sur une TVA sociale? Quelles sont vos réponses aujourd'hui?
Si vous me demandez là, à cette table, de vous dire que les comptes sociaux peuvent être rétablis par une décision simple, alors vous aurez des désillusions très graves. C'est impossible de faire ça, vous comprenez? C'est parce qu'on a posé les questions sous cette forme qu'on a laissé croire aux gens qu'on allait pouvoir ainsi entrer dans un avenir où tout se réglerait. Cela n'est pas envisageable. On a de graves problèmes de comptes sociaux, 12 milliards cette année de déficit. 12 milliards. Et ça ne se rétablira pas de cette manière-là. Ça ne peut se rétablir que par une politique sérieuse qui, par exemple, s'appuie sur la prévention. Je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'une politique de prévention en matière de comptes sociaux est nécessaire. Ça se rétablira aussi sans doute en changeant, du point de vue de la sécurité sociale, l'architecture de la gestion. Il y a des mutuelles en France qui réussissent mieux que d'autres caisses de sécurité sociale à obtenir un équilibre. Mais c'est du long terme. Vous vous souvenez qu'il y a eu autrefois le plan d'Oust-Blazy.
C'est pas si vieux que ça. Hein.
2003-2004.
Oui, auquel je m'étais opposé. Il prétendait qu'on allait revenir à l'équilibre en deux ans, qu'on aurait un dossier médical. Et je crois que c'est à ce micro que j'avais dit que tout ça était de la poudre aux yeux. Et tout le monde croyait que c'était par hostilité personnelle ou politique au ministre que je disais ça. Évidemment non, il n'y a toujours pas de dossier médical 4 ans après.
On l'aura bientôt.
Et quand Nicolas Sarkozy dit « je vais tout changer dans la gestion de l'hôpital », on a voté une loi en 2003, il n'y a toujours pas d'application de cette loi aujourd'hui en 2008. Et donc, la politique qui consiste à faire croire qu'en claquant du doigt les problèmes du pays vont s'arranger, c'est une politique qui va nous conduire dans le mur. Ça a été le grand mensonge de la campagne présidentielle de 2007, que de faire croire c'était fait. Vous vous souvenez, tout devient possible. Eh bien non,
c'est
tout n'est pas
de la
possible.
Politique de dire aux citoyens que quand on vote pour vous, c'est parce que vous pouvez faire des choses.
Eh bien, vous pensez que la loi de la politique est de raconter des histoires.
Ah non,
moi, je pense que la nécessité de la politique est de dire la vérité.
Question plus générale, Monsieur Bayrou, est-ce que vous pensez que la faiblesse du dollar par rapport à l'euro est très dommageable pour nos économies, et faudrait-il qu'on baisse un peu les taux européens et que la Banque Centrale Européenne soit un peu moins têtue là-dessus?
Étienne Moujotte, tout le monde s'accorde à dire que le prix du pétrole est un des éléments clés des difficultés de l'économie dans le monde. Nous avons, grâce à l'euro, la chance de payer le pétrole 30% de moins que les autres. Est-ce que le prix de l'euro, de ce point de vue-là, c'est un plus, c'est un moins dans d'autres secteurs? L'aéronautique, par exemple. Mais rassurez-vous, les adaptations vont se faire. Parce que vous imaginez pas qu'il va y avoir un gap aussi profond entre la banque américaine et nous.
Je ne suis pas rassuré, car je vois toujours le dollar baisser et l'euro monter. Et la banque européenne qui dit on ne fait rien, on ne bouge pas les taux.
Eh bien, je pense que la banque européenne a à sa tête des gens qui savent tout de même vaguement ce qu'ils font. Alors je sais bien que c'est la mode en France de les cibler, mais moi je observé depuis longtemps, par exemple dans la récente crise que nous venons de vivre financière, que après tout la Banque européenne ne s'en était pas si mal sortie.
Toute cette discussion économique évidemment est conditionnée au niveau de croissance que nous aurons cette année en France. Claude Guéant, qui est invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1, secrétaire général de l'Elysée, vient de dire que lui il estime très vraisemblable que la croissance en France sera de 2% en 2008. Vous partagez son... excusez-moi, je lis mal la dépêche.
Oui,
elle sera de 2% en 2007, donc c'est sur la prévision de la croissance
parce
de l'année passée.
Parce que je vous aurais dit que je ne partageais absolument pas cet optimisme.
Le budget est construit sur 2,25 pour 2008,
oui.
Et vous n'y croyez pas.
Et c'est évidemment, encore une fois, une illusion.
Et donc, il faudra rectifier les choses.
Ce sera une nécessité. Et inéluctable.
Sur le fonctionnement des institutions, que le secrétaire général s'exprime, secrétaire général de l'Elysée, il le fait encore aujourd'hui. Par exemple, on a vu Jean-Louis Debré aujourd'hui, qui s'exprime lui aussi beaucoup, président du Conseil constitutionnel, dire qu'il n'était pas sain que les collaborateurs du président de la République prennent la parole publiquement et participent au débat politique.
C'est sain dans une monarchie.
On n'est pas dans une démonarchie, on est dans une
république. Dans une république, c'est pas sain. Dans une république, on considère qu'il y a des responsables. Les responsables sont ceux qui sont élus ou bien nommés au gouvernement. Les conseillers privés du président de la République n'ont pas cette responsabilité. Ils ne sont responsables devant personne. Le président est responsable devant le peuple, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée. Et eux ne sont responsables devant personne. Et donc je trouve que ce n'est pas sain.
Est-ce qu'il est sain en République, que le président du Conseil constitutionnel sorte de son devoir de réserve traditionnel?
Ah ben, si vous avez envie de vous payer Michel Debré, Étienne Moujotte, faites-le, mais je ne le ferai pas.
C'est Jean-Louis.
Jean-Louis. Vous voyez, j'étais la génération précédente. Donc, si vous avez envie de mettre en cause Jean-Louis Debré, faites-le dans vos colonnes, mais moi, je ne le ferai pas.
Ah, pourquoi?
Écoutez, je me souviens de membres du Conseil constitutionnel qui se sont engagés dans des référendums. Je me souviens de... Voilà. J'imagine que si Jean-Louis Debré dit ce qu'il a dit, et pas sur ce seul sujet dans la journée, j'imagine qu'il a du souci. Et je comprends ce souci.
Tant Claude Guéant ce soir dit, ce serait stupide de mettre en place un plan de rigueur. Vous pensez qu'il vaut mieux aujourd'hui essayer d'éviter de mettre en place un plan de rigueur parce que ça déprimerait l'activité, ou bien c'est quelque chose qui est incontournable selon vous?
Mais on y va tout droit. Ou alors je ne connais rien aux chiffres, à l'évolution, à la tendance. Alors on va vous dire que naturellement, on vous dira. Je prends rendez-vous, je vous fais le discours à l'avance. Ce plan de rigueur n'était pas prévu. Il n'était pas nécessaire. Mais il est rendu incontournable par la crise internationale qui s'impose à tous les États. Voilà ce qu'on vous dira dans quelques semaines ou dans quelques mois. Le problème, c'est que on a envoyé le pays sur des rails, dans une direction qui ne peut pas le conduire au but qu'il s'était fixé.
Mais depuis le début de cette émission, vous avez fait une critique en règle de l'ensemble des mesures prises par Nicolas Sarkozy ou qu'il n'a pas prises. Est-ce qu'il y a dans votre... Parce que vous dites toujours que vous voulez être sage, équilibré. Est-ce qu'il y a un certain nombre de points qui vous semble positif? Je veux dire, là, peut-être la réforme des universités, peut-être la réforme des régimes spéciaux.
Franchement, la réforme des universités, c'est vraiment ténu, hein.
Donc il n'y a rien.
Ténu. Si, je trouve bien, mais là, il n'y est pas pour grand-chose, et ça n'est qu'un début, j'espère. L'accord qui a été pris entre partenaires sociaux sur le droit du travail, récemment, ça va dans la bonne direction. Il y a, j'approuve, je l'ai dit, ce qui a été fait en matière de intéressement, participation, récupération de la participation, je l'approuve.
Mais tout ça, ce sont des mesures importantes de l'action de Nicolas Sarkozy. Et quand vous dites qu'il n'est pas pour grand chose dans le contrat de travail, le président de la République a quand même mis la pression sur les partenaires sociaux.
Eh bien,
trouver un accord, sinon il y aura une loi.
Eh bien, vous savez qu'il y a des interprétations différentes, y compris parmi les partenaires sociaux, du véritable contenu de cet accord. Mais disons que la direction est bonne.
Et la méthode est bonne. Mettre la pression sur les partenaires sociaux pour faire évoluer le droit du travail.
Oui. Pourquoi pas? Mais je trouve que les partenaires sociaux devraient se mettre la pression eux-mêmes.
Le président de la République a sollicité Jacques Attali pour lui fournir une boîte à outils destinée à relancer la croissance. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode? Et dans cette boîte à outils, est-ce qu'il y a des mesures qui vous semblent devoir être mises en œuvre?
D'abord la méthode. N'est-ce pas? Nicolas Sarkozy s'est fait élire pendant la campagne présidentielle sur une idée simple, c'est « tout ce que je ferai, je le dis, et tout ce que je dis, je le ferai ». Donc l'idée était qu'il y ait lieu un contrat passé avec les citoyens explicite sur lequel on ne reviendrait pas, ni pour le changer, ni pour le diminuer. Et puis voilà que une fois au pouvoir, il convoque Monsieur Attali, plus je crois 43 personnes toutes aussi estimables les unes que les autres, en leur disant « s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a une contradiction entre l'affirmation de la campagne et cette réalité-là? Pour moi, il y en a une. Je ne vois pas quelle autorité à Jacques Attali, ni ceux qui l'entourent, pour décider de ce que doit être la politique française.
Il a remis un rapport, et le contenu de ce rapport?
Non, c'est pas comme ça.
D'accord.
Nicolas Sarkozy a dit « tout ce que vous déciderez, je le ferai ». Et Jacques Attali a dit « c'est pas un menu, plus exactement, c'est pas à la carte, c'est un menu, il faut tout prendre ».
Ça c'était avant, aujourd'hui c'est on n'est pas... plus tout à fait là.
Oui, ben, ils ont raison, parce que vous allez voir qu'il va se passer des choses autour de ce rapport.
Il y a 50 ans, le général de Gaulle avait fait la même chose, avec un comité qui s'appelait Armand EF, des propositions, et malheureusement, peu avaient été impliqués d'ailleurs.
Et donc, il y a là, dans cette méthode, quelque chose qui est extrêmement discutable. Je ne sais pas qui sont ceux qui ont décidé cela, et je ne sais pas quelle autorité ils ont. Je vous vois regarder la pendule, vous voulez interrompre, donc on va interrompre, et on reviendra après au rapport Attali sur quelques mesures.
Ah ben voilà, c'est François Bayrou qui fait le travail, il a raison, on va interrompre, on écoute les infos et on revient après. À tout de suite.